J'ai intitulé mon message ce matin « Le retour de Jésus-Christ ». Le retour de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'un des aspects de Noël que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Noël est la preuve absolue, et là je mesure mes mots, la preuve absolue que Jésus reviendra un jour. Donc nous vivons quelque part une preuve, et j'aimerais vous la faire découvrir ce matin. Alors bien sûr, à première vue, cela ne paraît pas être très logique, ou peut-être même pas très clair, mais vous allez voir à la fin de notre temps ensemble ce matin, la clarté de ces propos. Alors pour commencer, on va commencer dans un texte de nouveau inhabituel pour Noël. Alors allez avec moi à Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Et là vous vous dites en y allant, mais je ne savais pas que Noël se trouvait dans Lévitique 16. Eh bien vous allez voir quelque part que oui. D'accord ? Lévitique 16. Alors Lévitique 16, c'est une cérémonie tout à fait étonnante. C'est la cérémonie qu'on appelait la cérémonie du grand jour des expiations. Et cette cérémonie se fait encore une fois par an par les Juifs, bien sûr, sans tous les sacrifices, parce qu'il n'y a pas de temple. Cette cérémonie symbolisait l'expiation ou le pardon des péchés d'Israël. Cette fête se célèbre ou bien en septembre, parfois début octobre, et s'appelle le Yom Kippour, le jour Yom Kippour des expiations. Et alors cette cérémonie symbolise une réalité étonnante qui était à venir. Donc on est dans Lévitique 16, on va vraiment très rapidement parcourir cette cérémonie, d'accord? Il y a un écho là, est-ce que ça vous gêne ou c'est que moi qui j'entends l'écho? C'est pas grave, alors on continue, d'accord. Alors verset 2, il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car, là il n'y a plus de son du tout, c'est pas grave, voilà c'est bon, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ce qu'on apprend ici, c'est que le haut sacrificateur devait rentrer dans le tabernacle et dans le lieu saint et très saint surtout, il ne pouvait pas le faire n'importe quand, ni n'importe comment, car Dieu était tellement saint que de rentrer dans ce lieu très saint pouvait demander ou pouvait faire que le haut sacrificateur mourrait. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Au verset 3, écoutez ce qu'il est dit. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, c'était les préparatifs pour un jour par an rentrer dans le lieu très saint pour faire expiation pour les péchés du peuple. Vous allez voir, c'est très clair, ça va devenir très clair. Au verset 5, voici ce qu'il devait faire. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Donc, il devait choisir deux boucs. Et au verset 15, regardez ce qu'il fait avec le premier bouc. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc il devait prendre deux boucs, et un des boucs, il devait l'égorger. Il devait ensuite prendre le sang et rentrer dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, plus tard dans le temple, dans le lieu très saint, et asperger le sang là. Sur le propitiatoire, c'était l'endroit où Dieu rencontrait le peuple. Et au verset 17, il est dit, « Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. » Donc il devait rentrer tout seul. Si vous lisez dans Exode, vous verrez que sa robe avait des petites cloches tout autour. parce qu'on voulait entendre le son des cloches. Et le moment où on n'entendait plus les cloches, ça veut dire qu'il était mort. Donc, il ne devait pas rentrer n'importe comment. Tu rentres dans le lieu où Dieu est. En fait, on attachait même une corde à son pied. Au cas où il mourait, on pouvait le sortir. Parce que qui allait rentrer dedans pour aller le chercher? Donc, il devait rentrer tout seul, verset 17. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Et au verset 20, qu'est-ce qu'il faisait avec le deuxième bouc? Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché et il les mettra sur la tête du bouc puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. La symbolique est absolument incroyable. Un bouc meurt à la place du peuple, quelque part, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc le bouc remplace le peuple symboliquement, meurt à la place du peuple. Et le deuxième bouc sur lequel on confesse ses péchés, les péchés symboliquement vont sur ce bouc et ce bouc part dans le désert comme symbole, comme quoi les péchés ont été complètement éloignés du peuple. J'aimerais vous montrer une photo. Cette première photo, peut-être on pourrait éteindre ces lumières-là pour mieux voir si c'est possible. Cette première photo montre le temple, l'endroit où le haut sacrificateur rentrait. Donc il tuait le bouc. Et ensuite, il prenait le sang et il rentrait, on voit le voile, il rentrait derrière le voile dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il trouvait là le propitiatoire. On va aller à la deuxième image. Voilà le propitiatoire, là où Dieu rencontrait son peuple. Et c'est sur cet objet que le haut sacrificateur aspergeait le sang. Il entrait dans ce lieu saint afin de comparaître devant Dieu en faveur des pécheurs, apportant avec lui le sang répandu, prouvant que la loi avait été satisfaite et qu'une vie avait été sacrifiée à la place de celle des coupables. Alors maintenant, une fois qu'il avait fait cela, il devait ressortir. Ayant obtenu symboliquement le pardon de toutes les offenses, il ressortait du sanctuaire. Peut-être on peut repasser à la première. Voilà. Il ressortait. Et s'arrêtant sur le seuil, il élevait les mains pour bénir le peuple. Et la foule, repentante bien sûr, assemblée devant l'autel des expiations, voyait avec tremblement le grand prêtre entre la présence de Dieu trois fois saint, prosterné dans la prière. Elle attendait avec anxiété aussi longtemps et durant son absence. Mais lorsqu'il réapparaissait et donnait et bénissait le peuple, c'était la preuve, quelque part, que le salut était bien acquis. Et maintenant, le peuple éclatait de joie et de louange parce que la cérémonie avait eu lieu. Donc ça, c'est la symbolique ancien testamentaire. Si vous avez vos Bibles, allez avec moi à Hébreux 9, 28. Je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Hébreux 9, 28. Car l'auteur des livres des Hébreux fait allusion à cette cérémonie ici. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi on a parcouru cette cérémonie brièvement ce matin. Au verset 28, il est dit ceci. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est très intéressant. Si on recule un petit peu au verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il y a toute une symbolique. Comme le haut sacrificateur rentrait une fois par an dans le sanctuaire et ressortait, maintenant il parle de Christ, l'agneau parfait. Christ. Une fois qu'il est venu sur terre, il est mort. Et une fois qu'il est mort, il est ressuscité. Et ensuite, il est parti, il est monté dans le ciel, dans la présence même du Père. Et il offrait son propre sang. C'est ce qu'il est dit au verset 24 de Hébreux 9. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur qui devait rentrer chaque année, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois, parlant de Christ, pour effacer le péché par son sacrifice. Et verset 28, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, voici la clé, apparaîtra sans péché une seconde fois. Lorsque le haut sacrificateur sortait du temple, c'est la symbolique de la réapparition de Jésus-Christ à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voyez-vous, même dans Lévitique 16, il y avait déjà l'image de la venue, du retour du Seigneur au ciel et de son retour sur terre, dans la symbolique de cette cérémonie. Alors aujourd'hui, on en est où ? 2007. Jésus-Christ est ressuscité il y a 2007 ans de cela. Il est au ciel. C'est comme le haut sacrificateur qui est dans le temple. Nous attendons qu'il revienne. Nous attendons qu'il revienne. Nos misères continuent. Mais un jour, mes amis, nous éclaterons de joie et d'allégresse et d'adoration lorsque Jésus, ressortant du sanctuaire céleste, viendra nous donner quelque part la finalité de notre salut pour nous prendre avec lui pour l'éternité dans le ciel. Alors, la question que j'aimerais poser maintenant, c'est comment savoir si ceci est vrai ou pas ? Est-ce que Jésus va vraiment revenir ? Alors la symbolique est très jolie, on est d'accord, c'est très beau. Mais est-ce que c'est vrai ? C'est ça la question. C'est bien beau de le dire, c'est bien beau de l'imaginer, mais comment savoir si c'est vrai ou pas ? Est-ce que nous sommes tout simplement un groupe de personnes complètement illuminées, évoquant des belles paroles, mais en fait nous sommes complètement éloignés de la vérité ? Est-ce qu'on est vraiment sur terre, quoi ? C'est ça la question. Jésus va-t-il vraiment revenir, oui ou non ? C'est la question. Eh bien, il n'y a rien de plus simple à prouver. Comment ? Eh bien, c'est intéressant de savoir que la première venue de Jésus-Christ a été prophétisée de manière minutieuse dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties se sont réalisées, toutes. Alors, la conclusion est celle-ci. Si toutes les prophéties de sa première venue se sont réalisées, quelle est donc la probabilité que les prophéties faites concernant sa seconde venue se réaliseront ? Et c'est là où je vous laisse le soin ce matin de décider pour vous-même. C'est ce qu'il est dit. Prenons l'exemple qu'on vient de lire. Hébreux 9, 28. De même, Christ est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Apparaîtra sans péché une seconde fois, la Bible dit, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez peut-être deviné, moi, je suis convaincu que c'est vrai. D'accord ? Ça, ouais, là, je suis vraiment convaincu que c'est vrai. Alors, pour le prouver, regardons quelques prophéties par rapport à la première venue de Jésus-Christ qui se sont réalisées. D'accord ? Ça va être un exercice tout simple. Par exemple, commençons dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe a été écrit 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et au chapitre 7 et au verset 14, voici ce que Ésaïe a écrit 800 ans avant la venue de Jésus. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Là, il faut le faire. Une Vierge deviendra enceinte. Et donnera un fils dont le nom est Dieu avec vous. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Eh bien, Matthieu 1, 22, ce s'est réalisé. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Accomplissement. Il fallait que Jésus soit né d'une Vierge, car Jésus était sans péché. Donc, prophétie prophétie accomplie. Prenons une autre prophétie. Encore 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, Michée 5:1. Michée 5:1 est une prophétie époustouflante. Et toi, Bethléem, Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Nous savons que cette prophétie est une prophétie par rapport à Jésus-Christ qui dit qu'il devait être né à Bethléem. Pourquoi est-ce que nous le savons? Parce que dans Matthieu 2, lorsque Hérode est furieux du fait qu'un bébé annoncé être roi vient de naître dans son royaume, il est menacé, il demande aux Juifs, vérifiez vos écrits pour savoir si votre Messie doit être né quelque part dans les entourages. Alors les Juifs étudient la Bible et ils atterrissent sur Michée 5:1 et disent, oui, pile poil, Bethléem. Et c'est exactement où Jésus est né. Jérémie 31 nous donne une autre petite prophétie, enfin petite importante. Alors bien sûr, il faudrait vraiment prendre du temps pour analyser dans leur contexte chacune de ces prophéties pour les comprendre. Là, on ne fait qu'un survol. Je vous les donne. Nous pouvons les regarder une autre fois beaucoup plus en détail. Mais il est dit dans Jérémie 31, 15, « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » Et c'est intéressant que Matthieu 2 relate cette prophétie au massacre que Hérode a organisé pour tuer tous les enfants, tous les garçons en fait, de 2 ans et moins, pour se débarrasser du roi des rois, Jésus, qui était venu. Prophétie accomplie. Osée 11:1 nous dit que le Messie serait emmené en Égypte, ce qui est exactement ce qu'il a fait. Il est parti avec Joseph et Marie en Égypte pour éviter justement le massacre. Regardez la précision de cette haute prophétie dans Zacharie. Zacharie 9:9. C'est époustouflant le détail de ces prophéties. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, écoutez bien, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Matthieu 21, 4 à 5. Nous décrit l'événement où Jésus est rentré dans Jérusalem sur un âne, a été acclamé par le peuple. Prophétie accomplie, détaillée. Zacharie 11 nous parle même de la trahison. La trahison, c'est juste. La trahison, c'était le mot, j'avais un doute sur ce que je disais, la trahison de Jésus. Dans Zacharie 11, 12, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi un salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. Jésus a été trahi par Judas dans Matthieu 26 pour combien de pièces d'argent? 30. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent au fait? Prochain verset. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je le pris les 30 sicles d'argent et je les jetais dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et acte 1 nous dit que l'argent a été utilisé pour acheter un champ qui s'appelle le champ du potier. Exactement accompli. Ésaïe 56 nous dit qu'il serait livré au crachat et au coup. C'est exactement ce qui s'est passé à Jésus. Le psaume 34, 21 est étonnant. Le psaume 34, 21 nous décrit sa crucifixion. Psaume 34, 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Dans le contexte d'une prophétie messianique, et nous savons très bien, selon Jean 19, qu'aucun des os de Jésus ne furent brisés. Vous vous rappelez, il a été crucifié avec deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Et puisque le sabbat approchait, il fallait se dépêcher pour être sûr qu'ils étaient morts. Ils ont brisé les jambes du premier malfaiteur, ils ont brisé les jambes du deuxième malfaiteur pour accentuer et accélérer la mort. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort et ils ne l'ont pas brisé en os. Accompli, père, de manière parfaite. Écoutez, le psaume 22 est encore plus étonnant. Le psaume 22, je vais simplement vous lire ces quelques textes, vous me dites à qui il se réfère. Écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus, le verset 1. Au chef des chantres, sur biche de l'horreur, psaume de David, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent, pas brisés, se sont séparés. » La crucifixion, c'est ce que cela faisait. « Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Verset 16, « Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » C'est ce qui se passait à un crucifié, il était desséché. Verset 17, « Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et ils me regardent et ils partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. » Mes amis, ce sont des prophéties précises qui ont été accomplies par Jésus-Christ. Ésaïe 53, tout le chapitre est absolument étonnant. Mais la prophétie va jusqu'à ce détail, au verset 9, « Et on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. » La Bible a même prédit qu'il serait enterré dans le tombeau d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Mes amis, ça c'est que quelques exemples de prophéties. Toutes ont été accomplis en Jésus-Christ. Alors, comment vous réagissez? Moi, je regarde ça, il y a plus de 300 prophéties sur Jésus-Christ. Moi, je lis ça, je me dis, je crois que la Bible est inspirée. Je pense que c'est vraiment un livre de Dieu. Dieu a donné les prophéties, elles se sont toutes accomplies. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, voici la logique du prochain propos. Il est logique de conclure que si les prédictions de sa première venue se sont ainsi accomplies, que les prédictions concernant le retour de Jésus-Christ ont une égale autorité et s'accompliront également. Alors, question. Va-t-il revenir? Eh bien, je vais vous montrer les prophéties. Vous allez me dire maintenant si vous pensez qu'elles vont s'accomplir. Alors, vous savez, quand on étudie ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin des temps, il y a des théories sur le moment ou comment exactement ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer avant et l'autre. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est simplement prendre l'information globale. Ce sont les prophéties globales sur le retour de Jésus-Christ, pas sur le détail du précis, sinon on ne va jamais s'en sortir dans les minutes que nous avons devant nous. Juste quelques généralités prophétiques sur le retour de Jésus. Commençons avec Jean 14. Voyons ce que Jésus lui-même a dit de son propre retour. Jean 14, verset 1, nous dit ceci. Jésus parle à ses disciples et il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Maintenant écoutez. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez ce que Jésus dit? C'est vraiment clair. Je vais revenir, je vous prépare une place, et je viendrai vous chercher pour vous prendre avec moi là-haut. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties sur sa première venue se sont accomplies. Pourquoi est-ce que celle-ci ne s'accomplirait pas? Matthieu 24. Regardez Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Il est en train de dire, écoutez, beaucoup de gens vont se dire être Messie, vont se dire, c'est moi le Messie, c'est moi Jésus. C'est moi. Ne soyez pas séduits. Il faut bien comprendre comment lui décrit son propre retour. Au verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Est-ce que vous avez déjà vu un éclair dans un orage? C'est rapide. Fou! d'un côté du ciel à l'autre, immédiat, éblouissant. Il dit, car comme l'éclair parle de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Wow. Ça va être du rapide, du très très rapide. Verset 29. Aussitôt après ces jours de la détresse, parlant probablement de la grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il va revenir dans sa gloire, dans sa puissance, sur les nuages, il est dit. Et il enverra ses anges avec sa trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, une extrémité des cieux à l'autre. Il va venir avec ses anges. Si rapide qu'un éclair. Vous dites, ouh là là, c'est dur à vraiment saisir. John, est-ce que tu crois vraiment que là, peut-être, Jésus ne se trompe pas? Non. Non, je ne pense pas qu'il se trompe. Parce que dans Matthieu 5, 18, voici ce qu'il dit. Tenez-vous bien. Matthieu 5, 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Tout va arriver exactement comme il a été prédit. Alors, essayons d'être méthodiques dans les minutes à venir. Comment ce retour va-t-il se faire et qu'est-ce qu'on y verra? J'ai fait un petit PowerPoint pour vous aider, d'accord? 1. Jésus reviendra personnellement. Il reviendra personnellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Acte 1, lorsque Jésus était avec ses disciples, il était ressuscité. Maintenant, il allait monter pour aller vers le Père, il est monté physiquement. Et juste à ce moment-là, les anges sont apparus. Écoutez ce qu'il est dit dans Actes 1, 11. Peut-être verset 10 en premier. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc Jésus est en train de monter littéralement, physiquement. Deux anges apparaissent et ils disent, verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous l'avez vu partir physiquement et personnellement, il va revenir exactement de la même manière. Exactement de la même manière, personnellement. C'est ce que Ésaïe aussi avait prédit par rapport à son retour. Ésaïe 35, 4, où il est dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Lui-même, et vous sauvera. Lui-même. Et Jésus l'a dit aussi dans Jean 14, on l'a vu il y a quelques minutes. Il a dit, je reviendrai vous chercher parce que j'ai préparé une place pour vous. Donc Jésus reviendra personnellement. 2. Jésus reviendra corporellement. Corporellement. Avec un corps glorifié, certes. Vous savez, lorsqu'il est ressuscité des morts, étrange, il a apparu, même dans des pièces fermées comme ça, il pouvait carrément traverser les murs. Il s'est révélé aux disciples et à un moment donné, Thomas y doutait. Et Jésus lui a dit, mais mets tes doigts dans mes mains et dans mes plaies, tu verras. Et donc, bien qu'il avait un corps glorifié, ce corps était reconnaissable, c'était Jésus. Il a pu carrément mettre ses doigts, Jean 20, dans les plaies de Jésus. Donc, il était convaincu. Il était donc physique, corporel. Et dans Matthieu 24, 30, Jésus dit quoi? On vient de le lire. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Donc il est en train de dire « je viendrai, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, sur les nuées. » Et dans Matthieu 26, 64, il y a beaucoup de versets aujourd'hui, hein. 26, 64, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Il dit, voilà, vous verrez le Fils de l'homme, vous verrez moi, Jésus-Christ. C'est moi, ce n'est pas un fantôme. C'est moi, c'est du réel. Trois. Il viendra visiblement. Visiblement. Bon, c'est logique. S'il vient personnellement et physiquement, on va le voir. Mais bon, c'est quand même simple à le lire. Matthieu 23, 39. « Car, je vous le dis, vous me verrez plus désormais jusqu'à que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Oui, vous allez me reconnaître et vous direz « Ah, béni celui qui vient au nom du Seigneur. C'est lui que nous attendons, c'est pas un autre. » Et dans Apocalypse 1, 7, « Voici, il vient avec les nuées. » Donc, il reviendra personnellement, corporellement, visiblement. Quatrième, je pense que vous avez déjà deviné, parce qu'on l'a déjà lu quelques fois, il va revenir dans des nuages. Alors, c'est vrai que ça fait un peu drôle de le lire, hein, je vous l'avoue. Jésus va revenir dans les nuages, ça fait un petit peu dessin enfant. Mais écoutez, la Bible dit... Il va revenir dans des nuages. En fait, il vient avec, la Bible dit, elle est très précise, avec des nuages, dans les nuages et sur les nuages. Donc, lorsqu'il reviendra, il y aura des nuages un peu partout. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop les nuages. Quand vous allez skier, par exemple, à Flaine, les nuages, c'est embêtant. Mais au retour de Jésus-Christ, on sera vraiment content de voir les nuages, mes amis. Ce ne sera pas du brouillard, ce sera des nuages. Je ne connais pas trop la différence, d'accord? Dans Daniel... 7, 13. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et on vient de lire dans Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées. C'est vrai que l'imagination, là, ça part tous les sens. Hein. C'est incroyable de penser à ce jour où le Seigneur va revenir. Cinq. Il va revenir de manière soudaine. Soudaine. On l'a déjà vu dans Matthieu 24, comme un éclair. Tac, tac. Un Thessaloniciens 5, 2. 1 Thessaloniciens 5, 2 nous parle de cette venue. On va commencer au verset 1. C'est Paul qui écrit, l'église de Thessalonique avait des questions par rapport au retour du Seigneur. Alors il écrit ceci, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin de savoir l'heure précise ni le jour précis. Donc si quelqu'un vient vous dire un jour, ouais, je sais que Jésus va revenir le 22 mars 2008 à 14h30 de l'après-midi, c'est faux. C'est faux. D'accord? C'est faux. On ne sait pas. Jésus a dit même dans Matthieu 24 que même lui ne sait pas, c'est que le Père qui le sait. Regardez ce qu'il dit par contre, 1 Thessaloniciens 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », ah, écoutez, tout va bien dans le monde, les Nations Unies font leur job, tout va bien, c'est la paix. Il y a la paix dans le monde. C'est à ce moment-là que le Seigneur va revenir. Quand on pense que tout va bien, ce qu'il dit, hein. Comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix, sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le jour du Seigneur, soudainement. Six. Il reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa gloire. J'arrive à peine à imaginer ce que c'est. On peut réfléchir et penser un petit peu à la transfiguration dans Matthieu 17, où à un moment donné, Jésus était là avec certains de ses disciples. Il est devenu blanc éclatant. C'était la gloire de Dieu qui, pendant quelques instants, brillait. Écoutez, Dieu est trois fois saint. Aucune tache de péché. Le Créateur de l'univers, dans toute sa splendeur et dans toute sa sainteté, Jésus-Christ est Dieu. Et ce jour-là, nous le verrons dans toute sa gloire. Matthieu 16, 27. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. On ne peut qu'essayer d'imaginer ce que cela veut dire que le Seigneur Jésus reviendra avec la gloire de son Père. Ça ne va pas être une mince affaire, mes amis. Et dans 24-30, on a déjà lu « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Ça va vraiment dégager ce jour-là. 7. Il reviendra avec tous ses anges. Avec tous ses anges. Dans Matthieu 25, 31, on l'a déjà lu tout à l'heure, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Apocalypse 19 est encore plus précis. Apocalypse 19, 14 nous dit ceci. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alors les armées, je pense, se réfèrent à deux choses, les anges d'un côté et les rachetés de l'autre, ceux qui sont morts en Christ. En fait, c'est le prochain point. Parce qu'il va non seulement revenir avec tous ses anges, mais il revient huitièmement avec tous ses saints. Tous ces saints, c'est nous. Nous qui, à moins qu'on soit là le jour où ils reviennent, mais si on meurt en Christ, notre âme va avec le Seigneur, notre corps décompose. Mais lorsqu'il reviendra, eh bien, il y aura réunion du corps ressuscité avec nos âmes et nous reviendrons pour le jugement du monde avec le Seigneur. Colossiens 3, 4. Le dit comme ceci, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça, mes amis, c'est vous et moi, si vous connaissez Christ. Si vous connaissez Christ, si vos péchés sont pardonnés, si vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ, écoutez, le jour où vous mourrez, il n'y a pas de crainte. Vous passez directement dans la gloire du Seigneur et nous attendons de revenir avec lui. Mais allez voir, ça va être génial. Ça va être absolument incroyable. On va avoir des chevaux blancs. On sera vêtus de blanc. Vous dites, mais John, tu rêves ? Non, je ne rêve pas. Écoutez, est-ce que les prophéties de la première venue de Jésus-Christ se sont accomplies ? Oui ou non ? Oui. Alors, pourquoi est-ce que les prophéties de la seconde venue de Jésus-Christ ne s'accompliraient pas ? Alors, peut-être qu'on ne comprend pas. Mais vous savez que les prophètes de l'Ancien Testament ne comprenaient pas tout non plus. Je vous garantis que ça va arriver. Et moi, je vais être prêt. Moi, je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts. Donc, 7, il revient avec ses anges. 8, il revient avec nous, les saints. 9. Alors là, c'est précis. Tenez-vous bien. 9. Il reviendra sur le mont des Oliviers. Alors, à Jérusalem, il y a une montagne juste à côté qui s'appelle le mont des Oliviers. On peut y aller aujourd'hui. On me dit qu'il y a un hôtel bâti dessus. Je verrai ça en juin parce qu'on va en Israël en juin. D'accord ? Ben, l'hôtel, il ne va pas durer longtemps quand Jésus revient. Ça, je vous garantis. Parce que Zacharie 14 nous explique ce qui va se passer ce jour-là. Zacharie 14, écoutez cette prophétie époustouflante. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. C'est historique, c'est physique, c'est géographique. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et elle se formera une très grande vallée. Jésus va revenir, ses pieds vont toucher le mont des Oliviers. Cette montagne va se diviser en deux. Et on me dit que l'autel est en plein dessus, donc l'autel Hilton, on m'a dit aussi, je ne connais pas, va être divisé en deux ce jour-là. Et pourquoi va-t-il revenir ? 10. Jésus reviendra pour juger le monde. Vous voyez, il est venu la première fois pour accorder le salut au monde. Jésus-Christ est venu en tant que bébé. Il a vécu 33 ans sur terre. Il a fait d'innombrables miracles pour montrer aux gens qu'il était Dieu incarné. Ensuite, il a montré par cela aussi qu'il était sans péché. Il est mort. Il est ressuscité des morts pour prouver qu'il était Dieu et qu'il pouvait offrir le salut. Et là, ça fait 2007 ans. Depuis sa naissance, ça fait un peu moins, disons. Ça fait presque 2000 ans qu'il offre le pardon aux hommes. Mais un jour, il va revenir pour juger le monde. Très vite, Apocalypse 19. Premièrement, il va juger les armées du monde. Il y aura une grande bataille à Armageddon ce jour-là. Et dans Apocalypse 19 et le verset 15, il est dit de sa bouche, peut-être on va reculer un tout petit peu, verset 11, « Puis je vis un ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. » Ça c'est Jésus, d'accord ? Il va venir sur un cheval blanc. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Écoutez. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Ça, c'est nous. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui étaient au milieu du ciel, écoutez, c'est incroyable, venez, oiseaux, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui se montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Jésus va revenir avec toute son armée pour combattre et tuer ceux qui osent se rebeller contre lui pendant la grande tribulation, cette période juste avant son retour qui est décrit ici. Et tout ça, ça va arriver dans un endroit qui s'appelle Armageddon. Napoléon a dit que la vallée d'Armageddon, qu'on va aller visiter aujourd'hui, c'est le plus beau champ de bataille du monde. Et là va avoir lieu la dernière grande bataille. Donc ces armées du monde seront jugées. Deuxièmement, il va juger l'Antichrist. Verset 20. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent du feu et du soufre. Oui, pendant une période de 7 ans, il y aura un homme qui s'appelle l'Antichrist et il va vraiment créer des ravages sur terre. Jésus va venir et le détruire et le jeter dans l'enfer pour l'éternité. C'est ce qui est dit, c'est ce que je viens de lire. Ensuite, il va juger Satan. Chapitre 20, verset 1, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et qu'il y a en premier pendant 1000 ans. » Moi, je pense que c'est littéral, personnellement. Il va être lié pendant 1000 ans, et ensuite, il va être jeté dans l'étang de feu éternel. Car Matthieu 24 nous dit que l'étang de feu a été créé pour Satan et ses démons. Donc Jésus va venir, il va juger Satan. Et au verset 10, il est dit qu'il va être jeté dans l'étang de feu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais il va aussi venir pour juger les impies, ceux qui ont rejeté Christ, ceux qui se sont moqués de toutes ces choses. Il va venir les juger un jour, et cela s'appelle le grand trône blanc. Écoutez, ça fait vraiment peur. Je lis Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, le Seigneur. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et les morts et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. » Mes amis, le Seigneur va revenir juger toutes les personnes qui ont refusé son pardon. Vous dites, mais John, tu rêves là? Non, je ne rêve pas. Non. Est-ce que les premières prophéties de Jésus ont été accomplies à la lettre? Oui ou non? Pourquoi est-ce que celles-ci ne s'accompliraient donc pas? Il faut que j'arrête. Jésus 11 reviendra pour instaurer son règne. Nous allons régner avec lui. Apocalypse 20. Et 12, Jésus reviendra pour détruire le monde. Il faut quand même que je vous lise comment le monde va terminer à la fin de tous les temps. Est-ce que vous êtes curieux? 2 Pierre 3:10 nous le dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et regardez encore, où je vous lis, Apocalypse 21:1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Le Seigneur va brûler cette terre et va la détruire et va nous donner un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà ce que la Bible enseigne. Moi, je crois qu'il y a trois réactions possibles. Un, si vous êtes chrétien, dans votre cœur, vous sursautez de joie maintenant. Vous êtes en train de dire, c'est génial. Peut-être j'ai pas tout compris, mais je sais que c'est vrai. Et je suis prêt. J'espère que c'est ton cas. J'espère vraiment que c'est ton cas. Deuxième possible réaction, certains redoutent le retour de Jésus-Christ. Les hommes qui persévèrent dans leur incrédulité refusent de se repentir de leurs péchés, ne veulent surtout pas que Jésus revienne. Non, parce que ce serait un terrible règlement de compte. Mais un jour, la patience de Dieu et sa grâce viendront à terme. La Bible est claire là-dessus. Mais le monde n'envisage pas du tout une telle perspective. On est des illuminés pour eux, ça c'est évident. Alors pour se tranquilliser, ils cherchent à opposer ou proposer une toute autre doctrine à l'enseignement biblique et la perdition du jugement inévitable de l'homme. Non, ils disent que l'homme n'est pas du tout tombé, mais au contraire, que l'homme est bon. Finalement, que l'homme est issu du singe et que l'homme ne cesse de monter. Et donc il va de mieux en mieux, et grâce au progrès de la science et de l'instruction, le bien-être augmentera, les guerres cesseront, le bonheur et la paix régneront sur la terre, et nous rentrerons dans une époque de paradis, parce que le monde ira de mieux en mieux. Et bien sûr, tout cela grâce aux efforts des hommes. Bon, écoute, si tu veux croire ça, tu peux. Moi, je te dis que les premières prophéties de Jésus-Christ se sont toutes réalisées. Pourquoi celles-ci ne se réaliseraient pas? Et certains vont simplement se moquer de ces choses. Et toi? Et toi? Quelle est ta perspective sur le retour de Jésus-Christ? Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, peut-être aujourd'hui, 2 jours avant Noël, ce serait le jour de dire, Seigneur, écoute, j'étais jusqu'ici un incrédule. Je n'ai pas tout compris, mais il y a quelque chose dans moi qui résonne juste sur ce que j'ai entendu ce matin. Tenu ton péché, il est venu te pardonner. Accepte son salut et son pardon. Dis-lui, Seigneur, je veux être prêt pour ce jour où tu reviens. Prions. Seigneur, merci pour ces prophéties époustouflantes. Oh Seigneur, on a qu'à effleurer le sujet. Seigneur, tu nous connais, chacun, chacune. Tu connais le fin fond de notre cœur. Seigneur, prépare-nous pour ce jour, chacun, chacune de nous. Quelle que soit notre situation actuelle. Seigneur, nous te remercions et nous t'aimons. Reviens vite. Au nom de Jésus. Amen.